Vous écoutez, on lit pour vous.
La petite histoire du Cahier Canada. Un texte commandité paru le 2 septembre 2024 dans la presse. Une couverture verte, bleue, jaune ou rose, décorée d'une carte géographique familière où apparaît en grosses lettres le mot « Canada ». Qui sait combien de travaux scolaires, de poèmes célèbres et de révolutions scientifiques ont commencé par quelques gribouillis en marge de ces pages blanches rayées de lignes bleues et d'un trait rouge. Voici les origines et l'évolution d'un incontournable des bancs d'école, le Cahier Canada. 1918, première page d'histoire. Le 4 juillet 1918, Roy C. Hill emprunte 1932 $ pour fonder son entreprise de papeterie, la Canadian Pad and Paper Company. Le jeune homme de 26 ans travaille 16 heures par jour dans son bureau situé au deuxième étage d'un bâtiment de la rue Wellington au centre-ville de Toronto. Il s'occupe seul de l'administration, des ventes, de l'assemblage et de l'expédition, sauf en soirée, lorsque sa femme prend le tramway pour venir lui prêter main-forte. De 1920 à 1930, populaire papeterie. Après 2 années d'efforts, les affaires roulent assez pour que Hill déménage dans un bureau plus grand, au coin des rues King West et Brant. Une décennie plus tard, le volume de commandes requiert l'occupation d'une usine complète du secteur South Hill. 1958. Des acquisitions et un nouveau nom. L'entreprise familiale multiplie les acquisitions stratégiques, dont Eaton, Crane & Pike, L.P. Bouvier et la Canadian Stationery Company, jusqu'à devenir une grande société. Elle célèbre ses 40 ans d'existence en adoptant un nouveau nom. En clin d'œil à son fondateur, Roy Hill se retrouve désormais à la tête de Hillroy Envelopes and Stationery. 1978, au revoir, Monsieur Hill. Roy Hill demeure impliqué au sein de l'organisation en tant que président du conseil d'administration jusqu'à un âge avancé. Il s'éteint en 1978 à 86 ans. De 1980 à 2012, les Cahiers Canada changent de main. Lors des décennies suivantes, de grandes entreprises s'approprient et revendent les activités du manufacturier dont la société montréalaise Abitibi Price Inc. au début des années 1980. En 2012, le groupe international ACCO Brands fait l'acquisition de Hillroy pour 433 millions de dollars. Le Cahier Canada rejoint ainsi d'autres incontournables de l'univers scolaire, tels que les agrafeuses Swingline, les tableaux Cartet, les étuis à crayon Five Star et les cartables à anneaux Wilson-Jones. De 2009 à 2016, page blanche et grand art. L'artiste Emmanuel Galland sillonne les régions du Québec pour présenter l'exposition « Peut mieux faire », une collection d'œuvres réalisées à partir de Cahiers Canada. Des esprits créatifs s'expriment à travers les feuilles gribouillées, pliées, trouées, sculptées et assemblées, et offrent au public leur discours tantôt intime, tantôt politique. Aujourd'hui, le papier a l'ère numérique. Hillroy continue d'imprimer chaque année quelques 14 millions d'exemplaires de son célèbre cahier à la couverture colorée. Comment expliquer qu'après plus d'un siècle dans les salles de classe, cet outil a encore sa place aux côtés de la calculatrice, de l'ordinateur et du tableau interactif? La marque résume bien la magie indescriptible qu'elle opère. Tout ce qu'il vous faut pour changer le monde, c'est du papier et un crayon. Le Cahier Canada en chiffres. 32, 40 ou 60 pages. Bien que le manufacturier imprime une variété de cahiers de 32 à plus de 300 pages, ceux arborant l'emblématique carte du Canada sont uniquement offerts dans ces trois formats. 21,2 cm par 27,6 cm. Ces dimensions d'apparence irrégulière s'expliquent par l'utilisation du système impérial chez les imprimeurs. C'est exactement un quart de pouce de moins en longueur et en largeur qu'une feuille de papier standard de 8,5 pouces par 11 pouces, permettant de minimiser les pertes en découpant les rouleaux grand format. 45 secondes. Grâce à la robotisation, c'est tout le temps qu'il faut pour assembler un cahier. Chaque quart de travail de 7 heures en produit plus de 39 000. Moins de 50 sous chacun. Malgré les décennies d'inflation, la plupart des magasins à grande surface vendent encore l'ensemble de 4 cahiers de couleur assortis pour moins de 2 $. C'était « La petite histoire du cahier Canada », un texte commandité paru le 2 septembre 2024 dans La Presse.
Drogue de synthèse, sexe et émotion, un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 11 septembre 2024 dans La Presse. En matière de chemsex, la recherche s'est surtout intéressée à la notion de plaisir et de honte. Mais qu'en est-il des autres émotions vécues par les personnes qui ont recours à des drogues de synthèse pour intensifier ou prolonger leurs relations sexuelles? C'est la question que s'est posée Yannick Gaudette, étudiant au doctorat en travail social à l'UQAM. Et c'est, à mon avis, une question qui mérite qu'on y réfléchisse collectivement. Selon diverses sources, environ 10% des hommes de la diversité sexuelle consommeraient de la méthamphétamine, drogue que vous connaissez peut-être sous le nom de crystal meth. Dans la population générale, le taux serait plutôt de 1%. Et au Québec, la méthamphétamine n'est pas la seule substance psychoactive volontairement utilisée avant ou pendant les relations sexuelles. Le GHB et la kétamine le sont également, dans une moindre mesure. Vous avez sans doute entendu parler du chemsex récemment, aussi appelé « party and play », PNP, c'est une pratique qui soulève des inquiétudes sur le plan de la transmission d'infections, de la dépendance et de la surdose. Pourquoi attire-t-elle des gens malgré ces risques? Les personnes qui témoignent publiquement de leur consommation parlent notamment d'un plaisir décuplé par la drogue, une sensation dont il peut être difficile de se passer ensuite. Or, l'extase côtoie toute une palette d'états. Quand il a consulté la littérature scientifique à ce sujet, Yannick Gaudette a constaté qu'on s'était attardé aux notions de plaisir, qu'il soit sexuel ou qu'il provienne du contact avec les autres, et de honte, de ses pratiques sexuelles, de sa consommation ou de son orientation sexuelle. Mais assez peu au reste du spectre des émotions. Le chercheur a voulu en savoir plus sur la charge émotive de cet enjeu qui préoccupe actuellement les communautés gays, queer et trans. Mais comment faire pour entrer dans une telle zone de vulnérabilité avec des participants considérant que lors d'une recherche qualitative, on ne les voit souvent qu'une ou deux fois? Yannick Gaudette a opté pour la méthode photo-voix. Il a rencontré individuellement 10 personnes qui s'adonnaient ou s'adonnent toujours à la sexualité sous l'influence de substances psychoactives pour leur proposer de prendre des photos reflétant les émotions qu'elles ressentaient avant, pendant et après la pratique du chemsex. Il ne leur imposait qu'une règle: aucune photo à caractère pornographique, s'il vous plaît. 2 semaines plus tard, Yannick Gaudette a rencontré à nouveau chaque participant pour discuter des clichés pris, c'est-à-dire plusieurs paysages, beaucoup de fleurs, quelques pipes à craque ou encore des déchets. Parfois, la mise en scène était plus marquée. Un participant a illustré le « pendant » avec un portrait de ses amis réunis autour d'un souper de foie gras et de vin pour témoigner d'une euphorie qui frôle la décadence. Lors de ce second entretien, le chercheur a demandé à chaque participant pourquoi les photos avaient été prises. C'est là qu'ils se sont ouverts sur les émotions déclenchées par la sexualité sous des drogues chimiques. Yannick Gaudette analyse actuellement les résultats de ces discussions, mais déjà, il remarque certaines tendances. « Ce que je constate, dit-il, c'est que la question de la solitude est très importante. Les gens nomment pouvoir se sentir mis à l'écart et avoir de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Il a également observé que la solitude surgit souvent en même temps que la honte, soit quand l'effet des drogues s'estompe. Lors de ce qu'ils appellent la descente, les participants peuvent aussi côtoyer la culpabilité, le dégoût, la tristesse, un vide et une grande souffrance. Pour apaiser ces inconforts, certains consomment de nouveau. Marqué par ce qu'il découvrait, Yannick Gaudette a voulu faire partager ses savoirs au grand public. Ainsi est née l'exposition « PNP, Chemsex », un spectre d'émotions mettant en lumière 29 photos prises par les participants. Lors du lancement de l'expo, en août 2024, trois participants ont pris la parole devant le public, un des moments forts du parcours doctoral de Yannick. En tant que chercheur, on rencontre les gens, mais on n'a pas accès à l'impact que ça a eu. Ce que les participants ont nommé, c'est que ce travail leur a permis de prendre conscience de certaines émotions avec lesquelles ils n'étaient pas en contact ou ne voulaient pas être en contact. Peut-être qu'en lisant cette chronique, vous vous dites que vous n'avez pas grand-chose à apprendre de tout ça. Que les personnes qui ont recours à des drogues synthétiques pour augmenter leur plaisir sexuel n'ont rien à voir avec vous. Or, exposer les émotions impliquées dans un tel processus est non seulement important pour en comprendre l'attrait, mais c'est aussi une invitation à réfléchir à nos propres sentiments. Comme pour le chemsex, quand on parle de consommation de manière générale, que ce soit d'alcool ou de cannabis, par exemple, on a l'idée que c'est la descente qui génère l'émotion, souligne Yannick Gaudette. Mais il s'est passé des choses pendant cette soirée-là. On a tous dit des niaiseries quand on a trop bu. Notre anxiété n'est pas là que parce qu'on est en lendemain de veille, mais parce que des inconforts ont été vécus à travers les beaux moments. Il ne faut pas réduire ces émotions à la dopamine qui quitte notre corps. Il faut les reconnaître et y réfléchir. D'ailleurs, le doctorant croit que lorsqu'on prend la question du chemsex par le spectre des émotions, on réalise qu'il n'y a pas une si grande différence entre nous et ces personnes qu'on peut avoir tendance à mettre à l'écart. La solitude, ça se brise à deux, et ce genre de recherche nous montre ce qui est en notre pouvoir. C'était « Drogue de synthèse, sexe et émotion », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 11 septembre 2024 dans la presse.
Un travailleur temporaire violenté par son employeur cherche à regagner son statut. Un texte de Sarah Champagne, paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir. Quand les policiers débarquent le soir du 21 janvier 2022 au verger de la montée Carvey Hill à Franklin, les taches de sang au sol sont encore fraîches. Josué, prénom fictif, un travailleur temporaire, a le visage ensanglanté et un trou près de la lèvre, qui nécessitera 5 points de suture dans la nuit. Les deux propriétaires des lieux sont en état d'ébriété avancé. L'un affirme à la police que Josué est tombé au sol. L'autre, Maxime Baudry, dit ne pas avoir vu ce qui s'est produit. C'est pourtant lui qui a asséné de 5 à 10 coups de poing au visage de son employé, y compris quand celui-ci était inconscient au sol. Ce sont du moins les faits qui seront rapportés au palais de justice de Salaberry de Valleyfield plus de 2 ans et demi plus tard. Le 9 septembre 2024, M. Baudry a en effet plaidé coupable à l'accusation de voies de fait ayant infligé des lésions corporelles durant ce soir de janvier, où il avait invité les travailleurs sous son autorité à célébrer un anniversaire. Il a reçu une peine de 175 heures de travaux communautaires et restera en probation durant 2 ans. Interrogé par Le Devoir, il a dit ne pas souhaiter commenter l'affaire et vouloir seulement tourner la page. Le soir de l'agression, en janvier 2022, c'est avec une application de traduction qu'un collègue du travailleur fait comprendre aux policiers que c'est le patron qui a cogné fort. Ils appellent alors une ambulance. Je me souviens qu'il m'a frappé 2 fois. Puis j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé à l'hôpital, relate Josué en entrevue. Il a demandé à taire son identité, car il se trouve sans statut migratoire depuis 1 an et demi et craint que les autorités ne cherchent à l'expulser. Il repart de l'hôpital avec la joue recousue et le goût du sang au fond de la gorge, avec l'un des responsables de la ferme où il loge avec 3 collègues. Ils ne sont alors qu'une petite équipe dont l'employeur a prolongé les contrats de travail de l'été précédent pour entretenir l'érablière. Quitter la ferme, perdre son travail. Dans les heures qui suivent, des intervenants communautaires débarquent, puis la police revient sur place. On était terrorisés, mais la police nous a convaincus que c'était dangereux de rester là, se souvient Josué. Les travailleurs étaient traumatisés. Ils ne pouvaient pas croire ce qui était arrivé, relate quant à lui Melvin Mendez, qui, avec Laetitia Beita, a alors amené 3 des 4 travailleurs vers un refuge. Ils travaillent aujourd'hui tous 2 pour la Fondation Oscar Romero, pour le projet Vision ML, qui accompagne les travailleurs temporaires de la région. Même avec la douleur vive de son nez cassé, Josué ne veut pas porter plainte pour pouvoir garder son travail, constate M. Mendez. Lenteur et obstacle. À ce moment-là, je ne sais pas encore si je vais juste devoir repartir, justifie Josué. Je ne savais vraiment pas ce qui m'attendait. S'il le dit aujourd'hui avec dépit, c'est que plus de 2 ans et demi après l'agression physique, il est encore pris dans les dédales bureaucratiques. Mal outillé et traumatisé, il ne cesse de tomber entre les mailles du filet censé le protéger. Lorsqu'il quitte la ferme pour un refuge communautaire, les 3 compagnons d'infortune doivent d'abord régulariser leur statut migratoire. Leur présence au Québec est directement liée à l'entreprise de Maxime Baudry, car ils détiennent des permis fermés. En quelques semaines, ils décrochent des permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables, un programme du gouvernement fédéral. Josué dénonce son employeur en bonne et due forme à la police et l'enquête criminelle se met en marche. Mais son nouveau permis ne dure qu'un an et celui-ci expire donc bien avant que justice soit rendue, tant en cour criminelle que dans les autres instances auxquelles il s'adresse. Privé de soins. Entre-temps, il tente d'obtenir des soins de santé. Avec l'aide de M. Mendez et Mme Beita, il obtient un rendez-vous avec un médecin qui le dirige vers un spécialiste dans un hôpital. Sa carte d'assurance maladie expire avant qu'il puisse le consulter. Quand il reçoit son nouveau permis de travail qui va lui permettre de renouveler son assurance maladie, il cherche de l'aide pour se réinscrire à la régie et, quand c'est chose faite, il doit alors attendre plusieurs mois. À l'automne 2022, tandis qu'il travaille grâce à ce permis ouvert, il se met à saigner abondamment du nez et s'absente du travail puisque ses saignements se répètent. Il reçoit finalement sa carte d'assurance maladie le 16 novembre 2022. Il se rend à l'hôpital. « On m'a dit que la liste d'attente était très longue, qu'ils allaient me mettre déçu, mais que ma carte expirait bientôt. Il est en fait toujours tombé entre les cracks, comme dit M. Mendez. Résultat, il n'a toujours pas bénéficié d'une opération du nez dont la nécessité a été confirmée par plusieurs médecins différents. J'ai du mal à respirer, encore plus en hiver, dit-il, au cours d'une entrevue ponctuée par cette respiration parfois difficile. Il éprouve des difficultés à déglutir sa salive et sa nourriture. Une vie stoppée. Les mois qui suivent ne sont pas plus faciles. Je n'allais vraiment pas bien. Une fois que j'ai vu une voiture qui ressemblait à celle de Maxime Baudry et j'ai paniqué. Une autre fois, on était au Walmart avec mon compagnon, ancien travailleur du verger, et j'ai cru l'apercevoir. On est sorti rapidement. J'avais encore vraiment peur que le patron me retrouve. J'ai fini par ne plus trop vouloir sortir dans la rue, relate Josué. Comment peut-on le laisser dans un état pareil et sans statut? Dénonce Viviana Medina, organisatrice communautaire du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de Montréal, CTI. Tout dans cette histoire l'a mené à continuer dans l'extrême vulnérabilité et à passer ensuite de l'autre côté, à rester sans statut, poursuit Mme Medina. L'urgence, en ce moment, c'est mon statut, dit Josué. Il travaille en construction, payé cash, comme il l'explique. Ce n'est pas mon choix. Mais je n'ai pas le choix. Il est le soutien de famille de sa mère, de sa sœur et de sa nièce au Guatemala. Durant la validité de son permis de travail pour personnes vulnérables, il pouvait se mettre à la recherche d'un autre employeur prêt à l'embaucher. J'ai peur de retourner sur un permis fermé, il pourrait m'arriver encore quelque chose, justifie le jeune homme. Appuyé par le CTI, il demande aujourd'hui au ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Mark Miller, d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour rétablir son statut. Ma situation au Guatemala n'était pas si mauvaise. Je voulais faire un peu d'argent et repartir après 3 ou 4 ans de contrat. Maintenant, tous ces problèmes ne me laissent pas continuer ma vie. Je ne me sens pas libre. C'était... Un travailleur temporaire violenté par son employeur cherche à regagner son statut. Un texte de Sarah Champagne paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir.
Pour l'amour du livre. Un extrait du texte de Jules Couturier paru le 21 septembre 2024 dans La Presse, section L'itinéraire. Dans la librairie Le Furteur à Saint-Lambert, où elle nous a donné rendez-vous, Mariana Mazza est comme une enfant dans un magasin de bonbons. Les yeux pétillants, elle s'exclame d'excitation devant tel ou tel livre. « Ah, celui-là, je veux le lire. Ah, celui-là a l'air trop bon aussi. » L'humoriste, maintenant aussi chroniqueuse littéraire, nous avoue qu'il ne faut pas la laisser trop longtemps dans une librairie, sinon elle risque de se ruiner à vouloir tout acheter. Toute sa jeunesse, Mariana Mazza fréquentait les bibliothèques en quête de nouvelles lectures. Éventuellement, elle a compris qu'elle ne voulait pas seulement lire les livres, mais également les posséder. Elle aime l'objet en tant que tel. Ça tombe bien. Son métier d'humoriste lui a permis de faire plus d'argent et de pouvoir fréquenter les librairies et acheter ses propres livres, se réjouit-elle. J'ai commencé à me monter une librairie chez moi avec plein de livres que j'aime et d'autres que j'aimerais lire, qui me font de l'œil quand je marche dans la maison, raconte-t-elle à l'itinéraire. En plus de garnir sa bibliothèque, cette passion pour les livres permet aussi à l'humoriste d'encourager les librairies indépendantes, chose qui est très importante pour elle. L'essentiel travail du libraire. Sa librairie de quartier, c'est Le Furteur à Saint-Lambert. Elle connaît bien ses libraires avec qui elle entretient une belle relation à force d'y venir régulièrement. Le travail de libraire est très important. Ce n'est pas juste une jobine, c'est un métier, estime-t-elle. Selon elle, un bon libraire doit être capable de faire de judicieuses suggestions de lecture adaptées à la personne qu'il conseille. Êtes-vous déjà un lecteur aguerri? Qu'est-ce que vous aimez lire? Avez-vous du temps? Avez-vous peur de l'épaisseur d'un livre? Voulez-vous des personnages, une enquête, quelque chose de fictif, d'imaginatif. Voici toutes sortes de questions qu'elle juge essentielles à poser et qui créent un entonnoir pour tranquillement trouver le livre idéal à suggérer au lecteur. Depuis quelques années, elle-même suggère des livres à l'émission télévisée « Bonsoir, bonsoir » de Radio-Canada et participe ainsi à leur rayonnement. À l'automne 2024, elle lance même sa propre émission littéraire « Livre ouvert » à Ici RTV. Dans les dernières années, j'ai voulu faire connaître cette autre corde à mon arc, Mariana Mazza. Je trouvais injuste que des gens assument que je ne suis qu'une humoriste vulgaire. Je me sens maintenant plus crédible et respecté par ceux qui n'aimaient pas mon genre d'humour, car au moins, ils savent que j'ai aussi une facette plus intellectuelle. Lorsqu'elle fait des suggestions littéraires, les facteurs qu'elle prend en considération sont l'accessibilité de l'écriture, la grosseur du livre et la complexité de la trame narrative. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant un livre pour bébé et 10 un essai philosophique, elle dit suggérer des livres se trouvant autour de 5. La lecture selon Mariana Mazza. Tous les jours de sa vie, Mariana Mazza consacre 1 à 4 heures à la lecture, pour un total d'entre 30 et 45 livres lus par année. Cette routine, elle l'entretient depuis environ 5 ans, car elle avait perdu cette habitude de lecture au début de l'âge adulte. Au cours des 5 premières années de mon métier d'humoriste, j'avais arrêté de lire car je n'avais pas le temps. Ma vie était entièrement consacrée à écouter de l'humour. La réintégration de la lecture dans son quotidien la rend très heureuse et elle en perçoit les bienfaits. Depuis que je lis davantage, je m'exprime vraiment mieux, je trouve des mots à mettre sur des émotions auxquelles je n'aurais jamais pensé. Ça me donne beaucoup d'idées dans mon travail de création. Ça m'aide à canaliser mon énergie et à dormir le soir. Là où je me sens le plus libre, c'est quand je lis. Lire 50 pages le matin avec un café est pour moi la meilleure façon de commencer une journée. Un des plus grands rêves de Mariana Mazza. J'aimerais, pendant 1 an, ne plus avoir d'écran, plus d'Internet, rien, et me donner l'objectif de lire 100 livres dans une année. Vous venez de lire un extrait d'une entrevue qui a été publiée dans l'édition du 1er septembre de L'Itinéraire. C'était, pour l'amour du livre, un extrait du texte de Jules Couturier, paru le 21 septembre 2024 dans La Presse, section L'Itinéraire.